I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui j'ai la grande joie d'interviewer Céline Chung.
Je crois que c'est un peu une thérapie, enfin, presque, parce que je suis chinoise et j'ai toujours grandi à Paris. Et du coup, à la maison, tu sais, j'étais éduquée dans la culture traditionnelle chinoise de mes parents. Et à l'école, on m'inculquait toutes les valeurs françaises et tous mes amis étaient français ou venaient de partout. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression d'être un peu schizophrène entre les deux cultures et tout était différent. Moi, en fait, je me suis toujours trouvée un pied dans chaque culture et j'étais un peu perdue sur qui j'étais. Mes parents me disaient parfois que j'étais pas assez chinoise. J'ai eu besoin, tu vois, d'aller à Shanghai vivre pendant 6 mois pour un peu renouer avec ma culture et surtout appréhender la culture chinoise de mon point de vue et pas de la vision de mes parents. J'avais besoin de me détacher de leur œil, j'avais besoin de construire en fait ma propre vision, de porter mon propre regard sur cette culture-là. Et c'est là où je pense que j'ai commencé à renouer vraiment avec cette culture-là et à me l'approprier, enfin à en faire la mienne. J'ai un peu pris le meilleur des deux mondes que j'ai mis dans ce resto, quoi.
Céline Chung est la tête pensante de la Bao Family. Cette ancienne business analyst dans le luxe a révolutionné la restauration chinoise, loin des clichés qui lui collaient à la peau, et a réussi à la rendre aussi sexy qu'une trattoria tendance. Avec ses deux restaurants, Petit et Gros Bao, le service de livraison Bao Delivery et le Bao Market, elle a monté en 2 ans à peine un petit empire de la restauration cuisinée maison et délicieux, cool et bon marché. Elle a su également, depuis mars dernier, se réinventer sans cesse pour tenter de surmonter cette crise sans précédent qui touche de plein fouet les restaurants. Avec Céline, nous avons parlé de quête personnelle et identitaire, de subtilité, d'aubergine Hongxiao et de vision claire. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie. Bonne écoute! Bonjour Céline!
Bonjour Julie!
Petit Bao, Gros Bao, Bao Delivery. La famille s'agrandit vite depuis que tu as ouvert le premier restaurant en janvier 2019. Est-ce que tu as réussi ton pari de rendre la cuisine chinoise cool?
Oui, alors c'est vrai que ça allait assez vite. Et j'ai l'impression, en tout cas moi je suis très contente de ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis hyper contente de la carte de Petit Bao, de la carte de Gros Bao et le fait de ramener aussi la cuisine chinoise à la maison. Je trouve ça hyper, hyper cool. Et je pense que... alors moi je suis quelqu'un qui... tu sais, je suis assez exigeante envers moi-même et du coup j'ai un peu du mal à me dire que c'est bien ce que j'ai fait, mais c'est plus lié à ma personnalité. Mais en tout cas au vu des retours de nos clients, de notre communauté, de l'engouement qu'il y a aussi autour des restaurants tous les jours, j'ai l'impression qu'en tout cas ils aiment bien ce qu'on fait et du coup ça me fait vraiment plaisir, quoi.
Certains disent que tu as créé le Big Mama chinois, et c'est vrai que vous partagez des points communs. Proposer une cuisine authentique avec des produits sourcés, dans un décor moderne, des tarifs abordables, la queue aussi. Toi, t'en penses quoi ?
Alors, oui, c'est vrai qu'on m'a fait plusieurs fois cette remarque, et je me suis jamais comparée à eux. Et en tout cas, quand j'ai créé Petit Bao et même Gros Bao, moi, je me suis jamais dit que... mon inspiration ou ce que je visais à être, c'était le Big Mama asiatique. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais dit ça. C'est vrai que c'est plutôt les autres qui nous renvoient à ça. Je pense que moi, ce qui m'anime, c'est à chaque fois de faire des lieux qui sont avec une identité propre dans chaque lieu. Donc, c'est vrai que je n'avais pas envie de refaire un autre Petit Bao. Ça ne m'intéressait pas vraiment. J'avais envie de faire une énorme cantine chinoise avec Gros Bao. J'ai envie de changer la carte et du coup aborder, tu vois, les différentes cuisines de Chine. J'avais envie, bien sûr, de à chaque fois retrouver des recettes authentiques et bien sourcer nos produits. Donc, en effet, il y a un petit point commun. Et ce qui est hyper important pour moi, c'est vraiment de créer un lieu de vie qui est où on se sent hyper bien, où la déco te fait voyager, où l'expérience client te fait voyager, te fait oublier que tu es à Paris. Et finalement, ce qui me plaît, c'est vraiment que les gens passent le meilleur moment possible chez nous. Et du coup, après, c'est vrai que du coup, ça a attiré, ça a suscité la curiosité des Parisiens. Et c'est vrai que la queue aujourd'hui qu'il y a devant nos restos, c'est pas quelque chose que... qu'on avait anticipé ou prémédité, et c'est vrai que ça s'est fait tout seul. On a toujours été surpris en fait par l'engouement, et à chaque fois, tu vois, on doit se rattraper. C'est-à-dire que pendant les ouvertures, à chaque fois, c'est super dur parce qu'on prévoit jamais qu'on va faire autant, enfin qu'on aura autant de monde, surtout pour les débuts. À chaque fois, on est en train de courir après le monde, et c'est vrai que c'est un peu un marathon on a l'impression qu'il ne s'arrête jamais. Mais après, c'est hyper galvanisant, c'est hyper excitant. Et je suis vraiment très, très heureuse de ce qu'on est en train de créer à Paris, quoi.
C'est vrai que c'est venu, enfin, cette comparaison est surtout venue avec l'ouverture de Gros Bao, oui. Qui a des dimensions beaucoup plus exceptionnelles que Petit Bao. Oui. Et sur ton parcours aussi, parce que c'est vrai que toi, tu as fait une école de commerce, oui. Avec du conseil en entreprise avant de changer de voie. Pour toi, ça a été une décision salutaire?
J'étais vraiment pas heureuse dans mon métier d'avant. Je pense que depuis que je suis petite, j'ai envie d'entreprendre. Je portais en moi une envie de créer quelque chose, en tout cas. Je sais pas du tout dans quoi, mais et en fait la cuisine, c'est vraiment ce que j'aime. Enfin, manger, c'est ce que j'aime le plus au monde. Et du coup, l'idée du restaurant est venue assez naturellement quand je me posais des questions sur le type de projet que j'avais envie de monter. Et en fait, la décision de quitter mon job et de me lancer, ça s'est fait assez quand même naturellement. C'est-à-dire que je me suis pris un an quand même de réflexion, mais une fois que j'ai démissionné et que je me suis retrouvée toute seule à bosser sur le projet de Petit Bao, j'étais quand même hyper soulagée. C'était comme si, tu sais, je retrouvais la voie en fait. Que je devais emprunter, et du coup il y a eu un espèce
c'était
d'alignement
rassurée.
Ah ouais, ouais, c'est ça, un alignement, et j'étais complètement rassurée, et c'était un mélange, tu sais, d'excitation et aussi d'énormes peurs, parce que je me lance dans une aventure qui est inconnue, et du coup ça fait très très peur, surtout que tu perds, enfin moi je n'avais pas le chômage, j'avais démissionné sans rupture conventionnelle, donc j'avais plus de moyens. Je me suis vraiment retrouvée.
C'était un bon job oui. En plus aussi, donc c'est pas évident de passer d'un statut aussi
complètement.
À rien.
Ouais, complètement.
Une création où il y a rien au début.
Ouais, c'est ça. Avant, c'est vrai que t'étais dans un espèce de parcours, tu sais, ultra tracé. Tu savais exactement ce vers quoi tu tendais. Et là, c'est un saut dans le vide. Et en fait, tu dois construire à partir de rien. Et donc tous les jours, en fait, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais je crois que j'ai vraiment aimé ça.
Et le restaurant, enfin ce projet, c'est à la fois une quête personnelle et une quête identitaire qui t'a amené ici.
Ouais, complètement. Je crois que c'est un peu une thérapie, presque, parce que En fait, je suis chinoise et j'ai toujours grandi à Paris. Et du coup, à la maison, tu sais, j'avais vraiment... Et j'étais éduquée dans la culture traditionnelle chinoise de mes parents. Et à l'école, on m'inculquait toutes les valeurs françaises et tous mes amis étaient français ou venaient de partout. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression d'être un peu schizophrène entre les deux cultures. Et tout était différent. Et puis, il y avait des habitudes vraiment qui étaient... qui étaient même opposées parfois. Et je t'avoue qu'en grandissant, moi, en fait, je me suis toujours trouvée un pied dans chaque culture et j'étais un peu perdue sur qui j'étais. Mes parents me disaient parfois que j'étais pas assez chinoise. Et quand j'ai...
En même temps, j'ai grandi en France,
exactement. Ouais. Et quand j'invitais, tu vois, mes amis à la maison, toutes les habitudes culinaires, on mangeait avec des baguettes, personne ne savait ce qu'on mangeait à la maison, je leur faisais goûter, ils adoraient. Mais c'est vrai qu'il fallait aussi les éduquer, les faire rentrer dans la culture. Et je pense que moi, j'ai un peu cherché ma place, en fait, tout au long... De mon développement et de mon évolution. Et j'ai eu besoin, tu vois, d'aller à Shanghai vivre pendant 6 mois pour un peu renouer avec ma culture et surtout appréhender la culture chinoise de mon point de vue et pas de la vision de mes parents. J'avais besoin de me détacher de leur œil, j'avais besoin de construire en fait ma propre vision, de porter mon propre regard sur cette culture-là. Et c'est là où je pense que j'ai commencé à renouer vraiment avec cette culture-là et à me l'approprier, en faire la mienne. Et en fait, le restaurant, je crois que c'est la manière dont j'exprime ce que moi j'aime, en fait, des deux mondes, à la fois de ce que j'aime profondément de la Chine, les codes kitsch, la cuisine, la complexité des saveurs, la bienveillance, la solidarité, tout ça, j'aime profondément et j'essaie de le mettre dans le restaurant. Et puis après, je suis aussi très inspirée par Paris, la convivialité, la bonne bouffe, se sentir bien, les bons vins, les bons produits. Et en fait, je pense que c'est vraiment... J'ai un peu pris le meilleur des deux mondes que j'ai mis dans ces restos, quoi.
C'était important, la cuisine, dans ta famille ?
Alors, la cuisine, c'est hyper important dans ma famille. En fait, dans la culture chinoise, on n'exprime pas trop les signes d'affection ou les signes d'amour. Mes parents ne m'ont jamais dit « je t'aime », ils ne m'ont jamais dit des mots tendres, ils ne m'ont jamais pris dans les bras. Enfin, ça ne se fait pas. Par contre, en fait, ils prennent soin de nous et de la famille en fait, en s'assurant qu'ils ont bien mangé. Et en fait, vraiment, leur manière de prouver leur amour et leur affection, c'est en demandant « t'as bien mangé ? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Qu'est-ce que tu veux manger demain ? Qu'est-ce que tu veux manger demain soir ?» Et en fait, c'est vraiment à travers la nourriture et offrir les repas qu'ils prennent soin de nous, ils prennent soin des gens, et ils expriment cet amour. Et du coup, j'ai toujours... pour moi, c'était les moments les plus importants que je passais à la fois avec mes parents et ma famille, parce que c'était vraiment ces moments-là qui témoignaient du lien profond qu'on avait entre nous et où on partageait tout. Et du coup, c'est vraiment central du coup dans ma vie, quoi.
Mais pas de là, c'était central, mais pas de là à t'imaginer avoir un restaurant.
Ah oui, non, pas du tout. Mais c'est, en plus, je crois que déjà quand j'étais petite, en fait, je m'imaginais dans des boutiques.
Parce que tes parents avaient des boutiques.
Oui, exactement. Mes parents avaient des boutiques. Et donc, j'ai toujours été dans des lieux sur rue où je discutais avec des clients. Et donc, je m'imagine dans des boutiques. Et je crois que je m'imaginais plus dans la mode, d'ailleurs, que dans la cuisine. Et en fait, je crois que au fur et à mesure, j'ai découvert en fait, le plaisir que ça me procurait de manger et le plaisir que ça procurait aux gens de manger. Je trouvais ça hyper fort et donc je me suis tournée vers ça, mais c'est arrivé, tu vois, à 27 ans, quoi.
Oui, ça a été une longue quête. C'est pour ça que je parlais de quête personnelle aussi, parce que c'est, enfin, pas dire que t'as mis du temps, il y a eu un cheminement avant que tu trouves ta voie.
Exactement.
Ouais, tes parents, ils étaient pas du tout ouvert au fait que tu deviennes restauratrice, je crois qu'ils avaient du mal avec cette idée que tu changes de vie et ça a été compliqué de leur faire accepter.
Oui, je pense que ça, c'est vraiment la période de ma vie qui a été la plus difficile. Parce que du coup, je quittais mon job. J'avais pas de moyens financiers. Et en fait, mes parents me soutenaient pas du tout dans ce choix-là. Parce que, bon, clairement, ils avaient peur pour moi. C'est-à-dire que je quittais une situation qui était très stable. Eux, ils rêvaient. En fait, je suis la première à avoir fait des études dans toute ma famille. Donc, la première à avoir eu un bac plus 5. Du coup, ils avaient projeté toutes leurs espérances, en fait, sur moi. Donc, ils s'imaginaient que j'allais avoir une carrière incroyable dans des entreprises. Voilà, ils avaient vraiment projeté tous leurs rêves sur moi. Et donc, moi, je leur disais non, en fait, je vais ouvrir un restaurant. Et pour eux, le restaurant, c'est beaucoup d'immigrés chinois ont ouvert des restaurants. C'était plus un acte de survie, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et en fait, ils avaient l'impression que je rentrais dans ça, alors que...
qu'ils avaient voulu quitter, en fait. Enfin, ou qu'ils n'avaient pas voulu faire. Voilà.
Exactement.
Et qu'ils ne voulaient pas pour leurs enfants.
Exactement. Et en fait, vraiment, ils ont eu des mots qui étaient hyper durs. Ils m'ont dit que j'étais folle, qu'ils ne comprenaient pas du tout mes choix. Ils disaient, mais je ne comprends pas que ma fille, après tant d'études, tu veuilles faire ça. Vraiment, t'es folle. Enfin, en fait, c'était vraiment... Tu sais, c'était des mots qui étaient super durs. Et ensuite, j'ai bossé 2 mois pendant le projet toute seule et j'ai rencontré les fondateurs de Paris-New York, Rudy et Graffy. Et en fait, j'ai commencé serveuse. Ensuite, ils m'ont proposé de les aider sur leur développement. Et en fait, quand j'ai bossé pour eux, ça les a rassurés parce que du coup, j'avais quand même un travail pour des gens. Et comme quand je leur disais ce que je faisais, ils étaient là, ok, ça va. Et bah...
ça va.
Et en fait, quand j'ai quitté Paris New York, en fait, je leur ai pas dit que je quittais Paris New York, parce qu'en fait, je leur ai menti pendant 6 mois où ils pensaient que je continuais à travailler pour Paris New York, et moi, en fait, j'étais en train de bosser sur Petit Bao, j'avais trouvé le fonds de commerce, je faisais des travaux, et en fait, ils ne savaient pas que je faisais ça, parce qu'en fait, je savais qu'ils allaient avoir tellement peur pour moi. J'avais peur qu'ils projettent sur moi toute leur peur, leur peur d'insécurité pour moi. Et j'avais peur que moi, tu sais, ça me freine aussi dans mon projet. Déjà que je faisais...
Déjà que c'est dur et qu'il faut y aller taper dedans tous les matins.
Ouais,
donc
exactement, c'était ça. Et je crois que j'avais besoin de beaucoup, beaucoup de courage et que j'avais peur qu'en fait, ils me tirent vers le bas. Et du coup, j'ai préféré rien leur dire. Mais du coup, c'était aussi super dur de rien dire et de mentir à ses parents. Donc, c'était vraiment... En fait, la période avant l'ouverture de Petit Bao, c'était vraiment une période qui était psychologiquement très difficile. Mais comme je savais que c'était le bon chemin pour moi...
Le bon choix aussi.
Le bon choix, voilà, j'y suis allée. Mais je t'avoue que, c'est vraiment pas évident, quoi. Ouais.
Ils sont rassurés aujourd'hui quand ils voient les résultats?
Ouais, aujourd'hui c'est super mignon parce que, tu sais, ils sont aussi très exigeants.
Ton exigence vient pas de nulle part.
Oui, exactement. Donc, à chaque fois qu'ils viennent dans le resto, ils vont me dire, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Ce plat-là, c'est pas assez bon. Ça, c'est pas assez bon. Donc, en fait, c'est jamais assez bien.
Mais sur le côté, tu vois, business ou quand même, ce que tu as créé, c'est énorme.
Oui, carrément.
En aussi peu de temps en plus, donc...
Oui, ils sont...
Ils le reconnaissent, quand même.
Oui, ils le reconnaissent. En fait, je sais qu'ils le disent... Ils le disent ailleurs. Ils ont encore cette pudeur. Donc à moi, c'est compliqué, mais je sais qu'ils sont fiers et qu'ils le disent ailleurs. Et après, le signe, c'est que s'ils passent en voiture, après le travail, ils passent en voiture devant Petit Bao et devant Gros Bao avant de rentrer à la maison. Donc en fait, ils regardent quand même comment ça se passe dans les restaurants. Et ça, c'est quand même super mignon, quoi.
Et quand tu as voulu te lancer, quand tu as décidé de te lancer dans la restauration, tu t'es tout de suite dit que tu allais ouvrir une cantine, que tu allais t'attaquer à la cuisine chinoise qui souffre de méconnaissance et d'une mauvaise représentativité en France.
Oui, complètement. En fait, moi j'ai vraiment, tu sais, découvert la cuisine chinoise avec la cuisine de ma mère et de ma grand-mère. Et ensuite, quand j'ai voyagé à Shanghai, j'ai eu la chance en fait de voyager dans chaque région. Et c'est là où je me suis familiarisée avec les complexités et les identités culinaires de chaque région. Et c'est là où j'ai vraiment compris l'étendue et la variété de la cuisine chinoise. Et en fait, j'ai jamais aussi bien mangé chinois. Bon, enfin, c'était, enfin, la, enfin, quand j'y suis allée, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et j'avais beaucoup voyagé. Enfin, je suis un peu baraudeuse, donc je voyage un peu partout. Et vraiment, j'ai eu un espèce de coup de cœur. Enfin, je me suis dit, mais c'est exceptionnel. Et en fait, en France, on ne connaît pas ça, parce que voilà, plein de restaurants aussi l'ont un peu transformé. Il y a aussi beaucoup de cuisine fusion. C'est vrai que les
Et en plus, souvent, c'est Asie du Sud-Est, oui, dans les traiteurs,
c'est ça.
Comme il y avait dans les années 90-2000. Ouais. Encore, il y en a encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit que c'est de la cuisine chinoise, elle n'en est pas du tout.
Oui, complètement. Il y a beaucoup d'influences cambodgiennes, vietnamiennes. Ouais. C'est un peu un mix, finalement. Et je trouvais très peu de lieux avec de la cuisine chinoise authentique comme je mangeais là-bas. Et en fait, il y en a, franchement, on a quand même de la chance, il y en a quand même pas mal. Et après, c'est juste que je retrouvais pas dans ces lieux-là du coup l'ambiance, une ambiance cool, l'ambiance lieu de vie que j'adore. Et du coup, je voulais vraiment mixer ce côté cuisine authentique dans des lieux de vie qui sont cool. Et justement, je voulais casser tous les clichés que les gens pouvaient avoir sur la cuisine chinoise. J'en avais vraiment marre, tu vois. Enfin, moi, j'ai entendu toute ma vie vous mangez du chien et tout chez vous. Enfin, je voulais casser vraiment tout ça et montrer en fait ce que c'était la cuisine chinoise. Et du coup,
déconstruire les idées reçues.
Ouais, c'est exactement ça.
Et de façon cool et abordable et je sais pas comment dire, mais pas moralisatrice en tout cas.
Ah oui, complètement.
Enfin, d'être dans un
complètement. Nous on a toujours, tu sais, j'ai toujours voulu attaquer le truc un peu par l'humour et même par l'absurde. Et parce que en fait, je trouve qu'il faut un peu prendre du recul aussi sur ça, et j'ai plus envie de le faire de manière plus subtile que de porter vraiment un message politique haut et fort, quoi.
Comment tu t'as fait quand tu t'es dit bon, je monte mon restaurant? T'as dit que t'as passé 2 mois à travailler sur ton projet et qu'ensuite tu t'as dit qu'il fallait que t'ailles te frotter à un vrai restaurant.
Ouais, carrément. À la réalité du terrain. Ouais. En fait, pendant 2 mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même appelé des restaurateurs et ou des gens qui, un peu comme moi, tu sais, venaient pas forcément du milieu de la restauration, mais qui ont quand même monté des restaurants. J'avais besoin de comprendre leur quotidien, comment eux avaient mené leur projet. Et donc, j'ai rencontré plein de gens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, du coup, les fondateurs de Paris New York. Et j'avais vraiment envie, moi, j'ai besoin de comprendre vraiment les choses. Et j'avais envie de comprendre comment fonctionnait un restaurant, comment fonctionnait un service, comment fonctionne un service en cuisine. J'avais besoin d'être plongée en fait dans l'univers du resto pour me l'approprier et pour vraiment comprendre. Et donc c'est là où j'ai décidé d'être serveuse. Et en fait, les opportunités ont fait que j'ai travaillé 1 an avec eux. Mais c'est vrai que ça, c'était pas du tout dans les plans. C'était pas du tout dans les plans. Et après, je crois que j'avais peut-être besoin de gagner en expérience, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je m'attaquais à un secteur qui était hyper dur. Et je me rendais compte qu'en fait, ce que j'imaginais, c'était complètement ça allait être fou, en fait. Ça allait demander un travail de malade, une exigence de malade, que c'était beaucoup plus complexe est difficile que ce que j'avais imaginé auparavant. Et en fait, que ça allait pas être de refus de prendre un peu plus de temps, mais de bien mesurer l'ampleur des difficultés et des défis.
Et ça a été utile.
Clairement. J'aurais pas du tout monté, tu sais, le même resto, je pense, avant mon expérience par New York et après. Enfin, j'aurais pas du tout abordé les choses de la même manière.
Et c'est après que t'as fait Service Compris, l'incubateur ?
Ouais, je l'ai fait après.
C'est pareil, tu sentais que t'avais besoin de cet accompagnement en plus
Ouais, je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup... j'apprends beaucoup des autres, en fait. J'aime beaucoup écouter des histoires de restaurateurs qui partagent leurs expériences, et je me nourris beaucoup de leurs histoires, de la manière dont ils ont construit leur restaurant, et je trouvais ça hyper intéressant. Service Concret a été monté par des restaurateurs, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir leur regard, leur vision, et aussi, ils nous ont aussi rencontré beaucoup de personnes du milieu. On a rencontré Yves Candebord, on a rencontré plein de gens formidables, et je trouvais ça assez exceptionnel, cette chance, surtout quand on vient pas du tout de ce milieu-là. J'étais vraiment une outsider, donc je connaissais personne, et du coup pouvoir avoir la chance de rencontrer ces personnes, ça m'a beaucoup apporté et nourri dans la construction du projet.
Et tes anciennes expériences aussi chez Chanel, Louis Vuitton, dans le commerce, dans le domaine du luxe plutôt, ça t'a aidé?
Alors oui, ça m'a aidé sur vraiment le savoir-faire artisanal. Ce que j'adorais dans la mode et dans le luxe, c'est vraiment le travail main et le savoir-faire français qu'il y a derrière, et tous les artisans qu'il y a derrière la conception d'une robe ou d'un sac. En fait, ça me fascinait. Enfin, moi, ce qui m'a toujours fascinée, c'est vraiment le travail humain qu'il y a derrière la conception d'un produit d'exception. Et pour moi, la cuisine, en fait, c'est... Enfin, ça se rejoint beaucoup, et c'est pour ça que j'ai cette sensibilité aussi. C'est que ce que j'aime, c'est plus dans le processus, tu sais, de création, dans la minutie, dans le sens des détails qui font qu'à la fin, tu arrives à un produit d'exception. Mais en fait, ça requiert en amont des heures de créativité, ouais. De précision, de détails. Et en fait, je pense que ça me fascine, et c'est ce qu'on essaie de retranscrire à travers notre cuisine. Et je crois que j'ai gardé, tu sais, ce côté savoir-faire artisanal que j'aime beaucoup, et que du coup, tu vois, dans le bao, c'est exactement ce qu'il y a. C'est un process qui est hyper long. C'est un savoir-faire qui est fait main. Et du coup, je crois que c'est comme ça aussi que j'ai construit, que je me suis tournée vers le bao, ou que j'ai eu cette envie, tu vois, de faire du bao. Parce qu'en fait, j'aurais pu faire que des plats chinois.
Oui,
j'aurais pu faire plein de choses. Mais ce qui me plaît, moi, dans le bao, c'est vraiment cette précision, cette rigueur, cette exigence pour faire un bao parfait. Et je crois que c'est aussi... je pense que c'est ce que j'ai appris dans le luxe qui m'a un peu inspirée sur ça, quoi.
Sur la première... sur le petit bao. Donc, t'as décidé de te concentrer là-dessus, sur la première carte, et d'en faire ton produit phare.
Oui.
Bao et Xiaolong Bao aussi. Donc, c'est les petits raviolis avec du bouillon à l'intérieur, ouais. Qu'on aspire et qui sont délicieux. Comment tu formes tes cuisiniers? Enfin, t'as trouvé des cuisiniers spécialisés en bao? Ça a été un échange?
Oui, alors en fait, nous on a vraiment, tu sais, développé nos deux recettes de bao, donc à la fois le Xiaolong Bao et le Bao Zi, pendant un an. J'avais pris des cours de cuisine à Shanghai, donc avec des maîtres bao, et ensuite, par rapport à ce qu'ils nous avaient appris, nous on a continué à faire des recherches et des tests pendant un an, et donc on arrive à notre recette de Xiaolong Bao et de bao. Et ensuite, du coup, moi je recrute vraiment tous les cuisiniers par rapport à leur savoir-faire main, c'est-à-dire que je recrute vraiment, donc toutes les personnes qui savent faire des raviolis ou plier, faire des dim sum, faire du pliage main, on les recrute, et après on les forme vraiment à faire des bao, parce que finalement ils ont déjà ce savoir-faire de pliage qui est assez naturel pour eux. Et du coup, nous, on leur donne vraiment toutes nos recettes et notre savoir-faire qu'ils arrivent du coup à reproduire. Du coup, l'avantage, c'est qu'on a... dès qu'une personne sait plier des raviolis, faire des dim sum, nous, ensuite, on leur apprend à leur faire des bao.
Et comment tu t'y es pris pour monter ton projet en partant de rien? Donc, tu racontais donc les différentes étapes après avoir quitté PNY, et tu t'es inscrite directement dans l'incubateur. Tu t'y es pris comment?
Oui, alors, je pense que... c'est ce qui est assez je crois que, quand tu sais, j'ai une idée dans la tête. j'ai un peu je sais très vite en fait ce que j'ai envie de créer. Et donc le concept de Petit Bao, je l'avais déjà dans la tête quand j'étais chez PNY, parce que j'avais déjà travaillé dessus avant. Donc en fait, il avait beaucoup mûri. Je savais que je voulais faire des baos, je savais que je voulais faire d'autres plats à partager autour de la cuisine de Shanghai. Je savais que j'avais envie d'un lieu de vie entre Shanghai, Paris, Berlin. Il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient définies. Et donc quand j'ai l'incubateur m'a permis de vraiment poser ça sur un business plan. Et donc j'ai vu clairement que ça tenait la route. Et ensuite, on est parti prendre des cours de cuisine parce que moi, j'avais besoin de maîtriser la cuisine, j'avais besoin de maîtriser les recettes et je voulais pas être dépendante de chef. Mmh. Et une fois que voilà, j'avais fait ça, on est rentré à Paris. J'ai rencontré mon associé à ce moment-là, Billy. Et on est tout de suite parti à la recherche d'un fonds de commerce. Et je voulais vraiment être dans des quartiers vivants, où il y a du passage, dans des quartiers dynamiques à Paris. Et après, ce qui est fou, c'est que je crois que comme j'ai des visions assez claires de ce que je veux, j'arrive assez vite à aller vers ce que je veux. Et du coup, tu vois, le fonds de commerce, on l'a trouvé en 3 mois. Trois semaines.
Ah oui, ce qui est hyper rapide.
trois semaines, ce qui a été hyper, hyper vite. Et donc, aussi, on a signé. Donc, rue Saint-Denis, c'était génial. Il y avait tout à refaire.
C'était pas un ancien traiteur chinois.
C'était un ancien traiteur chinois. Et du coup, j'adorais, tu vois, je trouvais ça très, très drôle de reprendre un traiteur chinois. Enfin, c'était parfait, tu vois. Et après, tu vois, j'ai cherché un architecte pour faire la déco. On a peaufiné nos recettes et puis ça s'est lancé pendant presque un an, quoi.
Et ça a été la folie dès l'ouverture. T'attendais ce succès ?
Alors, je crois qu'en fait, je savais que ça allait fonctionner. J'avais pas trop de doutes sur le fait qu'on soit rempli midi et soir. Par contre, je m'attendais absolument pas à cette envergure d'engouement là. Vraiment, quand on a eu la queue,
c'était hyper rapide, hein, je me souviens. Oui. Dès l'ouverture, il y avait du monde.
C'était fou. Dès la première semaine, on a eu la queue et j'ai, enfin vraiment toute l'équipe, enfin et moi, on était hallucinés. Et en fait, la queue ne faisait que se rallonger de jour en jour. Et en fait, c'était hallucinant. Enfin, vraiment, là j'en parle encore avec émotion parce que c'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Mais après c'était hyper fort. Mais oui, et après, mais je trouve que c'est génial parce que ça prouve qu'en fait, tu vois, les Parisiens sont hyper curieux, ont une curiosité et une connaissance sur la cuisine, ont envie de goûter. Et en fait, ça, je trouve ça génial, quoi.
Et Gros Bao, l'idée de Gros Bao a germé assez vite derrière.
Oui, en fait, c'est vrai que dès que quand on a vu que Petit Bao se passait super bien et qu'on était rodé sur le service, sur nos plats, on sentait qu'on était bien rodé. Je t'avoue que voilà, je suis assez créative et moi, ce que j'adore en fait, c'est les projets. Je suis quelqu'un, j'ai toujours des idées, j'ai toujours des projets en tête. Et en fait, quand j'ai ça en tête, j'ai un peu du mal à juste les laisser dans un coin de ma tête. Je crois que j'ai besoin, en fait, de les ancrer, de les faire vivre. Et du coup, l'idée de Gros Bao, elle est venue, je crois, 3 mois après l'ouverture de Petit Bao. Et j'étais là, c'est trop cool. C'est trop cool, Petit Bao, ça fonctionne
ça
trop
marche.
Bien. Exactement. Du coup, moi, tu vois, j'étais allée à Hong Kong récemment et tu vois, j'avais l'image de ces cantines hongkongaises qui grouillaient de monde, énormes et tout. Et j'étais là, mais j'ai trop envie qu'il y ait ça à Paris. J'aime aussi le fait que dans des espaces grands, en fait, c'est différent. J'adore les restos petits, c'est hyper intimiste, mais j'aime aussi les espaces grands. Et du coup, j'étais là, franchement, ça serait incroyable. et du coup, on s'est lancé du coup dans la recherche d'un local beaucoup plus grand pour faire cette cantine hongkongaise. Et donc, on est là encore très rapidement. En un mois, on a trouvé ce local. Hyper rapide.
Il fallait se projeter parce que c'est vrai que le lieu, il n'était pas du tout comme il est aujourd'hui. Enfin,
oui.
Il y avait le restaurant coupé en deux.
Exactement.
Two Stories et
Nola.
Non, c'était Nola.
Nola,
et,
exactement.
Bon, bref, il y avait deux restaurants. C'était plus... Pas du tout comme c'est aujourd'hui. Effectivement.
Ouais, et c'était pas évident de se projeter dans celui-là. Mais tout de suite, on s'est dit qu'on allait en faire un lieu entier. qu'on n'allait pas en faire de restaurant, voilà, restaurant. Exactement. On voulait vraiment en faire une espèce de petite maison, quoi. Et après, c'est vrai que l'emplacement sur le canal Saint-Martin est exceptionnel. Mmh. Quand je voyais ces fenêtres au premier étage qui donnaient sur le canal, je trouvais ça à Paris. Enfin, c'est assez rare, des lieux avec des vues comme ça. Je trouve que le lieu avait vraiment avait quelque chose de spécial. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu un coup de cœur énorme sur le lieu, sur cette vue. Les cuisines étaient hyper grandes. Et moi, j'adore le canal Saint-Martin. Enfin, c'est un lieu où j'adore me balader. C'était mon rêve d'avoir un lieu sur le canal Saint-Martin. Donc, en fait, tout ça...
Tout était réuni.
Tout était réuni, exactement. Et donc, même si... On en a parlé, tu sais, à pas mal d'amis restaurateurs qui nous disaient mais en fait, c'est pas du tout la même chose d'ouvrir un grand lieu. C'est pas du tout la même organisation. C'est pas du tout le même business model. Enfin, franchement, vous allez prendre un risque de malade. Moi, à ta place... Bah, franchement, Petit Bao, ça marche bien. Enfin, les gens nous conseillaient plutôt de rouvrir un autre Petit Bao.
Ouais, Petit Bao, exactement. Dans un autre quartier.
Exactement, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrisait et qu'on allait du coup prendre beaucoup moins de risques.
Mais ça t'amusait pas.
Et moi... voilà. Et moi, je t'avoue que... En fait, j'ai besoin d'explorer à chaque fois des nouveaux challenges, apprendre toujours plus. Et j'avais envie de créer ce lieu qui était plus grand
dans ta tête,
dans ma tête. Et voilà, et donc
d'aller
finalement
au bout,
l'a fait. Ouais.
Quand on a une idée, on a envie d'aller au bout.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai que je trouve que quand on est à l'extérieur et qu'on voit les fenêtres, surtout quand on est de l'autre côté avec les luminaires rouges, ça me fait penser un peu à j'avais été à Pékin et il y a un lac avec plein de restaurants, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais plein de... C'est un lieu de sortie le soir et ça, enfin je sais pas, ça me fait penser à ça.
Mais oui, complètement.
On voit l'extérieur.
Et les lumières rouges se reflètent sur le canal le soir et du coup c'est
hyper
super
beau.
Joli, ouais, carrément. Et en effet, moi j'étais aussi assez inspirée par en Chine, on a beaucoup de parcs ou de lacs et tu as toujours des maisons de thé perchées sur ces lacs. Bah, je pense que ça doit ressembler à ce que tu as dû voir à Pékin. Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis tout de suite projetée dans cette espèce de maison traditionnelle perchée sur des lacs.
Et voilà. Avec le reflet.
Avec les reflets dans l'eau.
La présence de l'eau juste à côté.
Carrément.
Et t'as flippé avant d'ouvrir ce grand lieu, parce que c'est vrai qu'après, comme tu disais, après Petit Bao, c'est quand même trois fois plus grand, à peu
oui.
près.
Oui, c'est ça, trois fois plus grand. Je t'avoue que, je n'étais pas du tout sereine. Hein. Je n'étais pas du tout sereine, mais ce qui se passe en moi, c'est toujours cette dualité entre la peur et l'excitation et la motivation. Et du coup, je crois que j'arrive à dépasser cette peur en me disant en fait ce qui est important c'est pas forcément le résultat, c'est plutôt ce que t'as voulu construire et ce que t'as envie d'amener en termes de cuisine, en termes d'expérience. Et à chaque fois je me dis en fait le plus important c'est de le faire en fait, de le construire, et ensuite ça prend ou ça prend pas, on verra. Et puis au pire si ça prend pas, on s'ajustera par la suite, on peut toujours ajuster les cartes, on peut toujours ajuster l'offre, enfin on peut toujours s'adapter. Et du coup, je crois que j'étais assez confiante sur le fait que, au pire, on trouvera des solutions et que le plus important, c'est d'aller au bout
De son idée.
Exactement, d'aller au bout, d'y aller à fond. Et après, on va voir ce que ça prend. Mais je crois que je ne peux pas être frustrée de ne pas faire, en tout cas. Et donc, j'ai besoin d'y aller. Et après, on verra quoi.
T'as eu raison, parce que dès la première semaine, c'était la folie. Il y a tout de suite eu la fameuse queue dont on parlait. Et c'est vrai que ça a été un super départ dans un contexte pas forcément évident, où vous avez dû réduire le nombre de couverts.
Oui, complètement.
Vous ajuster par rapport à la crise du Covid, etc. Donc.
Ouais, c'était vraiment... pour nous, c'était un contexte très, très difficile. Pour ouvrir. Toute cette crise, en fait, c'est hyper anxiogène. Pour les équipes, c'est pas évident. Enfin, moi, en tout cas, ce qui me faisait le plus, peur, c'était plutôt comment maintenir en fait, la santé et la sécurité de notre équipe et de toutes ces personnes qui viennent manger chez nous tous les jours. Et donc, c'était vraiment pas évident. En fait, c'est un niveau de responsabilité qui est assez lourd à porter.
Parlais avec une autre chef, elle disait pareil. C'est en fait, on demande beaucoup. Puis la prise des coordonnées, etc. C'est vrai que ça vous fait peser quelque chose une responsabilité très lourde sur les restaurateurs.
C'est exactement ça. Et donc c'était comment jongler, comment faire ce qu'on aime faire alors que c'est tout nouveau pour nous. On est encore en train de se roder et en plus il y a des il y a toute cette gestion de risque à mener. Tout ça en parallèle, c'était vraiment pas évident. Voilà, je pense qu'on a juste... on s'est donné, quoi. Et c'est... fait, quand t'es dans un espèce en fait, on était dans une espèce de machine, tu sais, genre une machine à laver, qui ne... genre le temps... En fait, ça ne s'arrêtait pas. On était dans une espèce de lessiveuse... Et en fait, je t'avoue que j'ai même pas eu le temps de prendre du recul. Tous les jours, on réfléchit même plus, en fait. T'es sur le front, t'es là, tous les jours. Et en fait, tu fais du mieux que tu peux. Et voilà.
Bon, on va faire la petite pause aller-retour. Ton âge ?
Alors, j'ai 31 ans.
Petite hésitation.
Je viens d'avoir 31 ans, du coup, j'ai tendance encore à dire 30 ans.
Ton plat signature que tu fais, toi ?
Alors, à la maison ou ici ?
Comme tu veux.
Alors, non, moi, c'est vraiment les aubergines Hongshao.
J'ai pris la carte la dernière fois au restaurant pour les refaire à la maison.
Ah, trop bien.
Ton plat préféré à manger ?
Moi, c'est le poisson vapeur. Ouais, le poisson vapeur, je trouve que c'est hyper fin, c'est hyper doux. C'est à la fois un plat d'enfance, tu vois, c'est un peu ma Madeleine de Proust parce que ma mère me le faisait tout le temps. Et à la fois, je trouve que c'est très, très fin. Et donc, j'adore.
Le chef que tu admires le plus ?
Alors moi, je dirais Lucie, du coup, qui est notre chef à Gros Bao. Elle est incroyable. Elle est très, très sincère. Elle est d'une vérité, d'une sincérité et d'une générosité qui est immense. Et elle a une communication qui est exceptionnelle avec ses équipes. Elle est à la fois très créative et elle adore collaborer avec chacune en fait, des talents qui composent nos équipes de cuisine. Et ce qu'elle fait, c'est exceptionnel. Elle arrive à synthétiser en fait, les inspirations culinaires de chacun de nos chefs et arrive à en faire quelque chose tout en respectant la tradition, les recettes authentiques. Et je trouve que sa manière de faire, son processus créatif, pour moi, il est génial. Et du coup, je suis très, très inspirée par la manière dont elle mène nos cuisines et par la manière dont elle crée nos plats.
Ton ingrédient préféré ?
Le poivre du Sichuan.
Ton ingrédient détesté ?
La réglisse.
Ton ustensile fétiche ?
Les baguettes.
Ton dernier meilleur repas ?
C'était hier soir. C'était une raclette avec l'équipe. La raclette, c'est un moment que j'adore parce que ça réunit tout le monde. C'est hyper réconfortant. C'est un moment qui est très familial, convivial, mais en toute simplicité. C'est très simple, mais avec des super bons produits. Super bon fromage, super bonne charcuterie. Et en fait, suffit pas de grand chose en fait, pour faire un repas qui est incroyable.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ?
Je pense que c'est mes parents qui me disent qui m'ont dit une fois qu'ils étaient fiers de moi.
Et la pire critique ?
Quand on me dit que je suis une fausse chinoise.
Qui te dit ça ?
Tu sais,
des vrais chinois.
tu sais, c'est sur les avis Google.
Ah ouais.
on nous dit que c'est fait par des faux chinois, alors ça, ou des faux asiatiques. Ça me tue.
quand on est une jeune femme, est-ce que ça a été dur d'être entrepreneuse en étant une jeune femme ? Est-ce que tu sens que tu as eu des difficultés plus que si tu avais été un homme ?
Alors, je sens que j'ai senti que les regards sur moi étaient bizarres. C'est-à-dire que c'est plus que tu sais. Enfin, quand j'ai commencé à monter Petit Bao, en fait, toutes les recherches de fonds de commerce ou les négociations auprès des banques, en fait, j'étais toute seule. J'étais, enfin, Billy ne m'accompagnait pas. Et en fait, il se disait, mais qu'est-ce que vous faites? Vous, 27 ans, 1m60, jamais bossé dans la restauration, vous voulez ouvrir 7/7 midi et soir, mais vous n'allez jamais tenir le rythme. Enfin, les gens se posaient vraiment des questions et remettaient en cause mon projet, ce que je voulais faire. Ils me disaient que, clairement, vu la difficulté de ce que c'était que de monter un restaurant, j'allais jamais y arriver. Donc c'est plus voilà les regards et ce que disaient les autres sur le fait que j'allais pas réussir au vu du fait que je sois une jeune femme. Après j'aurais toujours prouvé le contraire. J'aurais toujours dit pourquoi j'allais y arriver, comment j'allais y arriver, comment j'allais m'entourer. Et donc au final après j'avais l'impression qu'il fallait que je montre une espèce de force de conviction ou de caractère beaucoup plus forte que ce que je peux être d'habitude. Donc voilà, il fallait que je m'affirme, quoi, vraiment, et être très convaincante dans ce que je racontais. Et au final, j'ai convaincu tout le monde. Donc c'est
ouais,
donc
c'était
c'est
un
génial.
Moteur presque, finalement, un moteur de puissance et de conviction.
Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Et mais du coup, je pense que j'ai su montrer que ce que je voulais créer, c'était pas du tout utopique, que c'était quand même maîtrisé. Et au final, ils m'ont fait confiance. Enfin, tous mes partenaires et tous les gens avec qui je travaille me font confiance. Et donc, ça, c'est génial. Et par contre, c'est vrai que dans le milieu, souvent, tu vois, je remarque que quand même, je suis souvent la seule. Enfin, je suis une femme parmi beaucoup d'hommes. Et c'est plus que, voilà, j'aimerais bien, moi, être entourée de beaucoup plus de femmes dans les gens que. Enfin. Voilà, dans toutes les démarches, c'est vrai que des fois, je suis souvent étonnée par ce truc qui n'est pas proportionnel, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'hommes dans le milieu que de femmes. Et, donc, je suis trop contente quand je rencontre des femmes dans le milieu. Ça me porte. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je sens que je suis un peu ovni parfois, quoi.
Pour revenir au lieu, enfin au gros Bao, au petit Bao, la décoration était aussi beaucoup, enfin était aussi très importante. Tu y as passé beaucoup de temps avec ton équipe. Tu voulais quelque chose de vraiment soigné, tu disais, un lieu de vie.
Complètement. En fait, pour moi, le restaurant, c'est vraiment une expérience à part entière. Et en fait, j'ai toujours voulu qu'à partir du moment où on rentre dans un de nos restos, du début à la fin jusqu'à sa sortie, en fait, il y ait cette impression de voyage et ce côté un peu waouh, c'est j'ai jamais vu ça. Ça me rappelle ce que j'ai vu en Asie, ça me rappelle ce que j'ai vu à New York, ça me rappelle ce que j'ai vu à Londres, mais voilà, c'est un peu différent de ce qu'on peut voir à Paris. Et du coup, moi je réfléchis vraiment, tu vois, à chacun des détails du parcours, en fait, que tu as dans le restaurant. Donc ça passe par tout, donc bien sûr la décoration, design, donc à chaque fois on fait appel à des architectes et même à des artistes pour faire des œuvres dans nos restaurants, parce que je suis assez sensible à l'esthétique. J'aime quand c'est beau aussi, ça accompagne aussi le bon, et je trouve que, tu vois, c'est assez bien fort, sûr, d'avoir le mix entre le beau et le bon. Et après ça passe aussi par tout ce qui se passe sur la table, et donc le dressage des assiettes, le choix de la vaisselle. On travaille aussi beaucoup sur le design graphique, et donc nos menus, on les travaille avec des graphistes, on fait des petites BD pour expliquer comment on mange les xiaolongbao, parce qu'on a envie aussi qu'ils soient accompagnés dans la découverte de ce plat-là. Et en fait, on a envie que tout soit assez... qui rentre, en fait, dans notre univers petit à petit, pas à pas. Et je crois que finalement, c'est des lieux de vie, mais je crois que c'est même des univers, quoi. Quand il rentre
jusqu'à la chemise des serveurs ou au savon dans les toilettes.
Complètement.
Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Enfin, ouais. C'est un univers, comme tu dis, mais très travaillé et pensé. Enfin, et pensé dans les moindres détails.
Carrément. Je crois que c'est moi, ce que j'adore, tu vois, c'est justement la somme des détails. En fait, fait enfin créer une harmonie et créer quelque chose de super beau. Et je crois que c'est ça. Et du coup, c'est vrai que alors les gens me prenaient un peu pour une folle parce que moi, quand j'ouvre un resto, en fait, chaque élément du restaurant est choisi. De la baguette au savon, à chaque tasse de thé. Et en fait, je vais chiner chaque élément. Mais en fait, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est que chaque élément a une histoire, il y a une envie derrière, et chaque élément est important et constitue le resto. Et c'est ça qui est, enfin, que moi, je trouve génial. Et j'ai l'impression que je suis trop contente, tu vois, qu'on le remarque. Je suis trop contente que les clients le remarquent et voient toutes les petites attentions qu'il y a derrière.
Chaque détail sur lequel tu as passé du temps.
Ouais.
Mais je pense que les clients, ils sont sensibles. Et
oui,
je
carrément.
Pense que c'est aussi pour ça que ça marche quand, justement, tous les détails sont hyper soignés.
Oui.
Et que rien n'est laissé au hasard.
Ouais.
Et pour certaines personnes, ils vont se dire que c'est. Enfin, ça a l'air trop, mais en fait, c'est pour ça que ça marche, je pense, aussi.
Oui, complètement.
J'ai l'impression, en tout cas.
Complètement. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est créer, tu sais, un effet de surprise. C'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas, mais quand on va découvrir les toilettes, à Gourbaou, on se retrouve dans un énorme aquarium géant. Et ce que j'adore aussi, c'est de rappeler... ça a aussi une histoire, parce que moi, je rêvais d'avoir des aquariums dans le restaurant, à l'image de tous les restaurants traditionnels qui ont des aquariums. Et là, le fait de se retrouver dans cet espace un peu fou, je trouve que ça crée une surprise. Ensuite, en effet, on a nos savons qui sentent hyper bon. Et puis, ça crée une nouvelle surprise. Et j'adore, en fait, tu sais, créer un peu des petits étonnements dans le moment que chaque personne va vivre au restaurant.
Elle ressemble à quoi, tes journées aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup changé mon quotidien. Avant, j'étais... je pense que j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant un an et demi. Parce que j'étais complètement portée par le projet. J'étais à fond. J'avais tellement envie que ça se passe bien tout le temps, que j'étais vraiment derrière tout. Et en fait, je crois que j'ai eu un peu une... Je me suis pris une claque vraiment à l'ouverture de Gourbaou, parce que je ne m'attendais pas... on changeait de dimension, et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ça allait provoquer en moi ce changement de dimension, et je me suis retrouvée à gérer... là, on est 85. Passer de 30 à 85 personnes, c'est énorme. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de...
De pas être là tous les jours,
parce que sinon j'allais clairement exploser. Et donc, en fait, j'ai radicalement changé aujourd'hui ma manière de travailler. Je fais beaucoup confiance aux équipes. Donc, mes équipes ont énormément de responsabilités, que ce soit nos directeurs, nos managers, nos chefs. Vraiment, c'est leur restaurant. Et c'est vraiment, ça, c'est hyper important chez nous, c'est qu'ils prennent possession des lieux, c'est leur restaurant, c'est leurs équipes. Donc, ils sont patrons, en fait, autant que nous. Et donc, ça, on a vraiment accentué ce côté-là. Et du coup, moi, aujourd'hui, alors, je travaille plus du tout 7 jours sur 7. Je travaille même plus que 4 jours dans la semaine. Parce que, en fait, j'ai compris aussi que, tu vois, quand je travaillais 7 jours sur 7, j'avais plus ces moments où j'ai besoin d'être inspirée. En fait, j'ai besoin de flâner. J'ai besoin de me balader dans... là, c'est compliqué. Mais tu vois, j'ai besoin de lire beaucoup. Je suis vachement inspirée par mes lectures, par les romans, par la littérature, par la philosophie. Donc en fait, en ce moment, je passe des demi-journées à lire, c'est tout. Et après, je suis beaucoup inspirée aussi par le travail que font des architectes, par les designers, par...
Il
faut du temps, en fait.
Pour s'imprégner, pour découvrir des choses, même s'il n'y a pas une finalité immédiate. Enfin, aller voir des expositions,
Exactement,
quoi,
c'est ça. C'est... Et même lire des livres de recettes, sortir aussi de la cuisine chinoise et voir ce qui se fait dans les autres cuisines. En fait, c'est toute cette culture... dont j'ai besoin. Et en fait, quand j'étais vraiment 7 sur 7, j'avais plus le temps, et qu'aujourd'hui je sens que j'ai besoin de le retrouver. Et du coup, là, ça y est, je m'accorde ce temps là et ça me fait énormément de bien. Et du coup, j'ai remarqué que plus j'avais du temps pour moi, il y a aussi des idées qui me viennent. Et typiquement, tu vois, Bao Market, est née, enfin, cette idée de, bah, on a lancé une cup noodles à l'image, tu vois, des nouilles instantanées. En fait, cette idée, elle est venue lors d'un vendredi où je ne travaillais pas, où je me baladais, justement à Belleville.
Et c'est là,
tu vois, et c'est là, je me suis dit, mais ce serait trop bien de faire une cup noodles avec des produits maison et tout, et parce que c'est un truc que tout le monde connaît. Et en fait, on l'a jamais fait maison. Et je trouvais ça génial de prendre le pari d'essayer de le faire. Et tu vois, et du coup, Bao Market est né de ça aussi. Et du coup, là, j'ai compris qu'il fallait que je prenne des temps pour
des
moi.
Temps off.
Exactement.
Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'idées sur mon vélo aussi.
Ah,
bah
voilà.
Des moments de flottement un peu.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est génial.
C'est quoi ton plus beau souvenir avec la Bao Family?
Mais en fait, mes plus beaux souvenirs, vraiment, c'est à chaque fois que... En fait, c'est quand je vois l'équipe. C'est-à-dire nos moments où on se retrouve tous ensemble pour partager un repas, que ce soit après les services ou quand on s'organise des dîners d'anniversaire.
Ou comme la raclette.
Ou comme la raclette, exactement. C'est qu'en fait, quand je vois toutes ces personnes qui sont réunies et qui rigolent et qui s'entendent bien et qui passent trop du bon temps ensemble... et qui sont trop fiers d'appartenir à la Bao Family, de construire le projet. Moi, je trouve que ça, c'est hyper fort. Et à chaque fois, j'ai des moments où je regarde la scène, tu sais... comme si j'étais à l'extérieur. Et là, je me dis, en fait, c'est incroyable. Et c'est... En fait, c'est, enfin, cette communion entre les gens et qui travaillent tous ensemble pour mener à bien un projet... Je trouve ça exceptionnel. Et moi, ça me remplit d'amour et de joie. Et j'ai envie de leur dire merci tout le temps. Merci, je vous aime.
C'est incroyable aussi, en moins de 2 ans, d'avoir créé 80 emplois.
Ouais, je crois que c'est ma plus grande fierté. Me dire qu'il y a 80 personnes... qui viennent tous les jours, qui sont contents de travailler, qui ont un salaire juste, qui peuvent nourrir du coup leur famille et qui peuvent mener leur vie, et qui sont trop contents d'être là. Franchement, c'est incroyable. J'ai un peu d'émotion dans la voix, mais parce que moi ça me touche vraiment. Et je crois que c'est ce qui est que moi je trouve le plus beau, quoi.
Pour parler d'un autre aspect du business, enfin du business, enfin en tout cas de la communication, le compte Instagram de la Bao Family, c'est toi qui gère, je crois.
Oui, oui, c'est moi qui gère.
Dans tes cordes, à ton arc.
Oui.
C'est important, c'est hyper important aujourd'hui pour le food business.
Oui, alors j'ai l'impression qu'Instagram aujourd'hui, pour tous les business, c'est devenu clé. Parce qu'en fait, c'est une vitrine de ce qu'on fait, de qui on est, de notre personnalité. Et c'est vraiment, je trouve, le meilleur moyen de montrer, en fait, ce qu'on fait. Et du coup, depuis le début, on a toujours voulu être très transparent dans notre communication. Et dans nos stories, en fait, on voit vraiment l'envers du décor, quoi. On montre la cuisine, nos galères, l'équipe. Et c'est pas du tout... Les stories, ce que j'aime bien, c'est que... Enfin, chez nous, c'est pas vraiment travailler... À part quand on a des photos, qu'on fait un lancement... Forcément, là, il y a des photos plus officielles, mais sinon, au quotidien, c'est vraiment du sur le
du
feu, qu'est-ce qui se passe.
Ouais,
voilà, c'est ça. C'est sur
ouais,
le feu, qu'est-ce qui se passe.
T'as pas voulu déléguer à une agence ou
non,
faire un truc hyper léché.
Non, parce que je trouve que ce qui est important, c'est de montrer vraiment qui on est, d'être authentique et d'être transparent avec notre communauté. Donc, je trouve ça hyper important que ce soit nous qui le fassions. Et après, je t'avoue que comme c'est hyper... ça prend tellement de temps... que j'essaye des fois, tu sais, j'ai essayé de le déléguer, mais en fait, je sais pas, je crois qu'il y a tellement aussi de mon âme ou de ma personnalité qu'il y a derrière, que finalement, c'est un peu difficile de le donner à quelqu'un d'autre. Et donc pour l'instant, tu vois, c'est toujours moi qui suis derrière. On verra comment ça se passe après. Mais c'est vrai qu'en plus, l'avantage, c'est que moi, je me balade. Je me balade entre petit Bao, gros Bao, je me balade entre la salle, la cuisine. Du coup, c'est vrai que je suis un peu.
Tu vois plein de choses.
Je vois plein de choses, en fait. Exactement. Et du coup, j'ai envie de. Enfin, dès qu'il y a des moments que moi j'adore, que j'ai envie de partager, bah, tu vois, je me pose pas de questions, je le fais en direct et puis je le montre. Et c'est vrai que je crois qu'il y a aussi cette facilité, le fait que je me balade entre tous les lieux, qui fait que c'est peut-être plus simple que ce soit moi qui le fasse, quoi.
Tu disais que tu avais tout le temps beaucoup de projets dans la tête. C'est quoi les prochains. Le prochain projet.
Alors, alors moi, il y a un truc que je rêve de faire, c'est retourner en Chine et retourner dans le voyage en Chine. C'est mes voyages qui ont nourri aussi la construction de ces restaurants. Et là, tu vois, on travaille sur un livre de recettes. C'est le tout début, hein, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai envie de faire un livre de recettes, mais aussi un carnet de voyage en même temps. Et du coup, je travaille sur ce format un peu hybride entre carnet de voyage et livre de recettes pour en fait montrer les plats emblématiques de chaque région que je vais aller découvrir dans les lieux tels qu'ils sont, dans les cantines tels qu'ils sont, et comment est-ce que la Bao Family on les réinterprète, et du coup vraiment faire ce voyage, tu vois, à travers les différentes régions de Chine et aussi pouvoir donner ces recettes aux Parisiens, quoi. Donc ça, c'est un premier projet. Et puis après, bien sûr, j'ai envie de créer d'autres lieux. J'ai des idées d'autres lieux en tête, et donc j'espère pouvoir les mener à bien dans la prochaine année. Voilà.
Moyen Bao. Petit et gros Bao.
Non.
Ça sonnerait bizarre.
Ça sonnerait bizarre. Mais du coup, j'arrive plus à trouver de nom autour de avec Bao. Du coup, je crois que je vais devoir inventer d'autres
Bao XXL,
noms.
Oui. Bao.
Je sais pas trop ce que ça va être. On verra. Mais en tout cas, on a d'autres projets en tête. Et voilà, tout ce que je peux dire, c'est que ce sera encore différent de Petit Bao et Gros Bao. Mais on laisse
à Paris,
la surprise. Comment ?
À Paris, plutôt.
Oui, à Paris. Yes, ouais.
Bon, ça y est, on arrive à la fin. J'ai la tradition de demander une recette, donc tu vas pas y couper. Une petite recette à nous donner, recette de la maison, tes aubergines ou autre chose que tu as envie.
Ouais, alors, nous, on nous a beaucoup demandé la recette de la pâte à bao. Donc, je vais vous donner la petite recette de pâte à bao.
Génial.
Ouais, attention, des bao exclusif. Ouais, du coup, c'est les brioches. Pour en faire 6, il faut 120 g de farine. Nous, on utilise la T65. Prenez une bio, c'est quand même mieux. Il faut 60 g d'eau tiède. Ça vous pouvez juste mesurer avec votre doigt en termes de température. Il faut une cuillère à café de levure boulangère, une pincée de sel. Je crois que c'est 2 cuillères à café de sucre. Je crois que c'est ça. Au pire, vous me redemanderez pour le sucre. Ensuite, faut pétrir tout ça. Si vous avez un KitchenAid, c'est plutôt pas mal. Enfin, vous faites un petit bâton, puis vous mettez dans votre KitchenAid et à vitesse 2 pendant 4 minutes, pour être très précis. Et ensuite, vous mélangez tout ça et il faut laisser reposer la pâte pendant 1 heure à température ambiante, à 20 degrés à peu près. Et pendant 1 heure, ensuite, votre pâte, elle aura bien gonflé. Et ensuite, il faudra préparer la farce à côté. Donc la farce, prenez de l'échine de porc, du vin de Shaoxing, du soja light, de l'huile de sésame, une cuillère à soupe de chaque, un peu de sel, un peu de poivre, de la cébette découpée, du gingembre haché. Vous mélangez tout ça, ça fait la farce du bao. Et ensuite, vous mettez à peu près, je crois que c'est pour 30 g de pâte de bao, vous mettez 25 g de farce. Vous pliez le tout. Donc vous regardez nos tutos sur Instagram. Vous pliez le tout et là vous relaissez à nouveau reposer pendant 25 minutes à température ambiante. Et ensuite vous chauffez à la vapeur, au cuiseur vapeur ou dans un panier vapeur pendant 10 minutes.
Trop bon. Ça donne faim.
Ouais. Ouais.
Bah, merci beaucoup Céline.
Bah, merci beaucoup Julie pour l'invitation.
À bientôt.
À très vite.
Vous venez d'écouter Céline Chung, épisode 11 de la saison 4. Pour goûter ces petits plats yummy, rendez-vous chez Petit Bao rue Saint-Denis, Gros Bao quai de Gemap ou en delivery. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.